vous êtes chef d'entreprise artisanale ou conjoint de chef d'entreprise artisanale et vous êtes non salarié,
vous souhaitez acquérir de nouveaux savoir-faire, améliorer la gestion de votre entreprise ou encore gagner en visibilité digitale,
le FAFCEA vous accompagne financièrement dans vos projets de formation.
Rendez-vous sur le site fafcea.com ou contactez l'organisation professionnelle représentative de votre métier pour vous aider dans vos démarches.
Vous écoutez
RMC.
Dans un instant, dans Estelle Midi, on parle de ces 2,5 millions de Français qui vivent aujourd'hui en colocation, mais habités avec des amis, des étudiants ou des seniors. Est-ce l'enfer ou le paradis? On attend vos témoignages au 32-16 et sur l'appli RMC. Mais tout de suite, vous êtes 14h. Il est 14h, vous êtes sur RMC. Les infos avec Jamila Zeghoudi.
Effroi, horreur, sommet de l'abomination. Les réactions politiques sont nombreuses après qu'un trentenaire a attaqué au couteau 6 personnes, dont 4 enfants à Annecy. Ça s'est passé vers 9h45 ce matin au bord du lac dans une aire de jeu. L'homme d'origine syrienne s'en est pris directement aux poussettes des enfants de moins de 3 ans, dont 2 sont entre la vie et la mort. Un adulte a lui aussi son pronostic vital engagé. On va à Annecy rejoindre Vincent Chevalier. Vincent, vous êtes sur place pour RMC où les riverains sont encore sous l'effet de la sidération, Vincent.
Oui, c'est vraiment le mot, hein. La sidération, une chape de plomb hein, s'est abattue sur Annecy, une ville très touristique, très paisible d'habitude. Et là, cet effroyable drame qui a saisi les riverains, les touristes aussi, qui sont aussi nombreux actuellement, hein, vu le temps, vu la chaleur. Tout allait bien ce matin jusqu'à ce drame désormais. Ce drame est sur toutes les lèvres. Hein. On ne parle évidemment que de ça. Des badauds s'arrêtent le long du périmètre de sécurité qui est encore très important. La ville résonne de sirènes, de la sirène de police, des sirènes de pompiers. L'armée est également là. Le périmètre de sécurité autour de ce parc de jeux est encore très important. Des gens aussi parfois très inquiets pour leurs enfants. Par exemple, j'ai rencontré ce midi un papa qui venait chercher ses enfants dans une école à 2 pas du parc. Il était évidemment assez angoissé, rassuré tout de même par la direction. D'autres parents sont venus le rejoindre pour récupérer leurs enfants. Je vous propose d'écouter Olivier.
Dès que j'ai su ce qui s'était passé, bien évidemment, comme tous les autres parents, bah, je suis venu pour les récupérer. Ouais. C'est des actes que j'arrive pas à comprendre, moi, personnellement. C'est des choses qui me dépassent un petit peu, ça. Effectivement. Surtout à Annecy, mais je crois que malheureusement, il n'y a plus aucun endroit en France ou dans le monde qui est épargné par ce genre de choses. Mon grand regret.
L'émotion, évidemment, très vive à Annecy. C'est le cas aussi pour l'ancien footballeur Anthony Le Tallec. Il faisait son jogging autour du lac au moment des faits lorsqu'il est tombé nez à nez avec l'assaillant.
Je courais au bord du lac. Il y a une maman qui me dit « Courez, courez, il y a quelqu'un qui poignarde tout le monde. » Et je vois le mec, effectivement, qui arrive en face de moi. Et sur l'herbe, et je vois les flics qui sont à 5-10 mètres derrière lui, qui n'arrivent pas à l'attraper. Il arrive vers moi, donc je m'écarte un peu. Et là, il attaque. Il attaque le papy. Il le poignarde une fois, les flics est derrière lui, il n'arrive pas à l'attraper. Donc après, moi, je continue ma course et je vois au fond du lac des enfants par terre. Des enfants par terre, donc très malheureux, quoi.
Du côté de l'enquête, Guillaume Bier, on en sait un peu plus sur le profil de l'assaillant.
Oui, c'est donc un homme d'une trentaine d'années, originaire de Syrie. Il est en Europe sous le statut de réfugié. En 2013, il s'est installé en Suède, où il est marié et père d'un jeune enfant, la Suède, où il a obtenu le droit d'asile, sachant qu'il l'avait aussi demandé en France en novembre dernier. Il est donc en situation régulière sur le territoire européen, n'a jamais eu affaire à la police, à notre connaissance. Lors de son arrestation ce matin, il a déclaré aux policiers qu'il était un chrétien de Syrie. Sur lui, il porte effectivement une croix chrétienne. Et dans une vidéo insoutenable obtenue par BFM Télé, une vidéo filmée par un témoin que nous avons pu consulter également, eh bien on voit cet homme tenir son pendentif en main au moment des faits et on l'entend dire 2 fois en anglais « In the name of Jesus Christ », qui veut dire donc « au nom de Jésus-Christ ». Voilà les derniers éléments dont on dispose. Cet homme est toujours en garde à vue.
Merci Guillaume Bier, chef du service police-justice d'RMC. Dans 45 minutes, minutes une conférence de presse. On devrait en savoir encore un peu plus. La première ministre est en train d'arriver sur place à l'aéroport, accueillie par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. La réaction aussi du président de la République sur Twitter, Emmanuel Macron, dénonce une attaque d'une lâcheté absolue. Une minute de silence a été respectée ce matin à l'Assemblée nationale en hommage aux victimes et à leurs familles. L'actualité, c'est aussi un homme placé en garde à vue à Lorient dans l'enquête sur la mort d'Iris, cette jeune femme de 23 ans retrouvée dans les eaux du Blavet fin mai à Lanester en Bretagne. Son corps présentait, selon l'autopsie, des lésions traumatiques, des hématomes ainsi que des traces de strangulation. La fin de l'alerte enlèvement pour Malek, 8 ans, sans qu'on ait plus d'informations sur le lieu où elle est susceptible de se trouver. Elle était portée disparue depuis hier, depuis que sa belle-mère a été retrouvée sans vie dans l'appartement familial à Dunkerque. Le père est soupçonné de féminicide. Et puis, ils veulent en finir avec ce gouvernement. La NUPES va déposer une motion de censure en vue d'un vote en début de semaine. Le groupe indépendant Lyot n'a pas encore décidé s'il s'associe à l'initiative Lyot, qui a retiré ce matin sa proposition de loi visant à abroger les 64 ans après que cette proposition de loi qui vise à abroger la réforme des retraites a été vidée de sa substance. RMC 14h05, c'est la suite d'Estelle Midi avec Estelle Denis.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h avec Rémi Barré, avec le journaliste aux médias, mais pas que, Thierry Moreau, la petite nouvelle, Annelise Lecor d'Urgé, qui est journaliste au Figaro, et puis le journaliste et écrivain Fred Hermel. Dans un instant, on parlera de colocation. 2,5 millions de Français vivent en colocation, mais habités avec des amis, des seniors ou encore des étudiants. Est-ce l'enfer ou le paradis? On attend bien sûr vos témoignages sur l'appli RMC et au 32-16, 14h30, ne ratez surtout pas, RMC s'engage pour vous. On va tenter d'aider Marie. Marie, elle a été victime de ce qu'on appelle une arnaque à l'amour. Elle a versé 20 000 euros à un homme rencontré sur un site de rencontre. Elle essaie de les récupérer, ces 20 000 euros. Mais enfin, je ne vous cache pas que ce n'est pas gagné. Et puis, on terminera avec les immanquables, Rémi, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui.
On parlera notamment de Dieu qui n'échappe pas, pardon, à la théorie du genre. Je vais vous expliquer pourquoi. Non, ni l'un ni l'autre. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Et puis on reviendra sur le cas de ces passagers, tu sais, qui s'étaient vus surfacturer parce qu'ils emmenaient un gâteau dans l'avion.
Oui.
Il y a du nouveau.
Mais non.
Ah, si.
Ils ont mangé les gâteaux.
Non, vous verrez.
RMC Estelle Midi.
14h07 sur RMC, on va tout de suite s'intéresser aux chiffres du jour dans Estelle Midi. 2,5 millions de Français vivent actuellement en colocation, que ce soit pour des raisons économiques ou pour ne pas habiter tout seul. De plus en plus de personnes choisissent de vivre l'expérience de la colocation avec des amis, des étudiants ou encore chez un senior. Il y en a, Rémi, pour tous les goûts.
Oui, le profil type du locataire, il a en moyenne 27 ans. En moyenne, parce que ce sont
c'est
plutôt...
C'est beaucoup.
Ouais, c'est beaucoup. Plutôt des femmes que des hommes, même si ça se joue à pas grand chose, et en majorité, il s'agit d'étudiants, c'est ce que nous dit la dernière étude de l'observatoire Loc Service. Pour autant, si les étudiants représentent 61% des locataires actuels, on trouve quand même 35% d'actifs. Viennent ensuite les retraités ou les personnes sans activité. Elles sont beaucoup moins nombreuses, hein. C'est 4% du total des colocataires. Pourquoi se mettent-ils à la colocation? Avant tout pour une question financière. Oui, c'est évident, hein. Le loyer moyen d'une chambre en colocation, loyer moyen, hein, atteint 439 € contre 556 € pour une location classique. C'est quand même 27% de différence. Il y a bien sûr de fortes disparités selon les régions. 66% des recherches de colocation se font en province. 34% pour l'Île-de-France. Parmi les villes les plus tendues, là où il y a plus de demandes que d'offres, eh bien, on trouve La Rochelle qui arrive en tête, devant Paris. Ensuite viennent Lyon, Rennes et Metz. Concernant les critères de sélection, il faut quand même savoir que 22% des demandes sont refusées quand le candidat est fumeur. 20% des femmes souhaitent une colocation entre femmes. Mm-hmm. En revanche, il n'y a que 3% des hommes qui exigent...
C'est bizarre, ça.
Enfin, quand on interroge les colocataires sur ce qui les rebute dans ce mode de location, ce qui les rebuterait totalement, 67% parlent d'un logement qui soit sale.
Ouais.
Ça, c'est pareil, logique. Hein. 58% parlent quand même de la chambre, que la chambre soit visitée en leur absence. Alors ça, c'est rédhibitoire.
Bah, évidemment.
Et pour 31% des cas, que ce soit toujours le même qui fasse la vaisselle.
Oui, ou qui lave la salle de bain.
Exactement.
Évidemment. Alors, vivre en colocation, est-ce l'enfer ou le paradis? Je me tourne vers vous, Annelise Lecor d'Urgé, parce que vous avez vécu en colocation.
Oui, on vivait justement chez des seniors. Donc, c'était un très grand appartement dans le 16e arrondissement de Paris, 110 mètres carrés. Mais nous, on avait accès, on avait notre coin, si vous voulez. On avait chacune une chambre. Je vivais avec ma meilleure amie. Mmh. Et c'est très sympa parce que on avait un lien privilégié avec Colette et René, qui avaient 105 et 97 ans, qui sont partis oui. depuis. Ah oui. Et puis, avec ma coloc, c'était très sympa parce qu'en fait, quand on arrive à Paris, qu'on n'a pas de thunes et qu'on est seul, bah, on est content d'avoir quelqu'un qui s'inquiète pour nous, avec qui partager de temps en temps un dîner. Enfin, c'est quand même un cadre de vie plus agréable qu'une petite chambre de bonne avec les toilettes et la salle de bain sur le palier.
Mais c'était gratuit contre service ou vous payez quand
même? Non, on payait un loyer, on payait la chambre et il n'y avait pas de service parce que c'était des personnes qui justement avec nos loyers pouvaient se payer une femme de ménage, etc. Donc c'était quand même très confortable pour nous aussi.
Fred Hermel, vous seriez tenté par la colocation, vous qui vivez seul à Paris?
J'ai vécu en coloc.
Ah bon?
Oui, bien, plein de fois. Et c'est l'enfer.
Pourquoi ?
Oui, c'est l'enfer. Moi, je me souviens, j'ai vécu en coloc en France quand j'étais étudiant.
C'est vrai que vous n'êtes pas facile.
Non, mais quand je vivais en Espagne, au tout début, j'étais en coloc avec une Française. Et un matin, on va dire clairement les choses, elle me dit, il faut qu'on parle. Je dis, oh là là, elle a l'air très sérieuse et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais avec le papier toilette ? Je lui expliquais que, voilà, je... Et elle dit, bah, c'est plus possible, tu en utilises trop. Et à partir de ce moment-là, elle demandait à ce qu'on fasse papier toilette séparé.
Chacun
son rouleau, voilà, différent. Donc, il fallait prendre des couleurs différentes. Et un jour, alors, bien sûr, comme dit Stéphane, dans le frigo, il y avait des étages. Et un jour, j'avais mon grand ami Luc, qui est toujours mon ami aujourd'hui, qui était venu chez moi. Et s'était trompé, il avait mangé un yaourt de cette fille. Mmh. Et ça avait été un scandale. Donc non.
Faut bien choisir ses colocs.
Alors, après j'étais en coloc avec ma sœur. Alors en fait la recette c'est d'être en coloc avec quelqu'un qu'on aime, quelqu'un de très important et tu peux t'engueuler. Tu sais très bien que ça va jamais. Oui. Voilà, avec ma sœur on s'engueulait plein de fois.
Parfois la coloc c'est pas deux, hein. Parfois
c'est plusieurs, en fait. Voilà, hein. C'est ça. Alors avec ma sœur on s'était engueulé quand on était à Lille en étudiant. Parce que moi j'étais un peu le bordel quoi. Elle était plutôt bien rangée les choses, ouais. Mais comme c'est ma sœur, on sait, mais on voilà, ça s'arrangeait toujours. Mmh. Mais moi, je connais plein de gens qui se sont mis en coloc avec des amis, mmh. Et puis ils sont finis par se détester, et puis ils sont plus devenus amis, quoi.
C'est ça.
Parce que le rythme de vie différent.
Comme un couple.
Parce que là, mais c'est ça. Enfin, c'est donc coloc enfer au paradis, mais évidemment risque d'enfer très très élevé.
Thierry Moreau, est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est-à-dire qu'on a tous en tête les images de l'auberge espagnole
c'est
de Cédric Clapiche.
C'est ce que j'allais dire.
On trouve ça tellement sympa entre jeunes, Erasmus. Ouais. C'est l'occasion de faire des rencontres, de s'ouvrir sur d'autres mondes, etc. Mais en fait, on se dit que bah oui, c'est aussi mettre ses noms sur des aliments, avoir des cheveux ou des poils de barbe qui traînent dans le lavabo qu'on a en commun, des gens qui font du bruit. Ça semble pas être une si bonne idée que ça au final.
Là, je suis totalement contre. J'aurais jamais fait de coloc et j'en ferai jamais. Alors maintenant, c'est un peu tard, mais je suis arrivé à Paris, j'ai cherché. Évidemment, j'avais pas de moyens. Je venais de province, donc j'ai trouvé une chambre de 10 mètres carrés, enfin un petit studio de 10 mètres carrés que je louais 1000 francs. On était en 86 ouais. Et pour rien au monde, j'aurais mis cette même somme dans un 110 mètres carrés pour être 11 par exemple. Enfin très clairement, la salle de bain, c'est un truc je supporte pas quand il y a 3 gouttes d'eau hors du bac.
Moi, c'est le dentifrice qui est laissé sur les mailles.
Le dentifrice laissé sur le truc, les cheveux. Bref, je ne vais pas décrire tout ce qu'on peut trouver dans une coloc. Mais c'est, donc non, je préfère être chez moi, responsable de mon chez-moi, aussi petit soit-il. Je pense qu'effectivement, on a la vision rêvée. C'est ce que j'allais dire à vous quand vous en parliez. On a la vision idyllique et rêvée de l'auberge espagnole et de tous les films de Cédric Clapiche. En fait, et dont la dernière série d'ailleurs est plutôt pas mal parce qu'il y a aussi une coloc avec les enfants, mais qui se passe dans un autre pays. Et c'est idyllique. Mais en vérité, ça doit être un enfer. Entendre les ébats des autres. Je sais pas.
Après, il peut y avoir des règles. Pas le droit d'amener un amoureux ou une amoureuse.
C'est sympa, mais alors.
On a expliqué que les jeunes ne faisaient plus l'amour, donc c'est pas un problème.
C'est pas faux.
Elle a raison. Voilà.
Bien joué.
Mais comme il y a aussi des vieux en coloc, comment on fait?
Et les vieux font l'amour.
Oui, ça leur arrive aussi. Oui, c'est ça, ça doit leur arriver, évidemment. On est avec Aïcha. Aïcha qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Aïcha.
Bonjour Estelle, ça fait très longtemps.
Bonjour.
Oui, mais c'est vrai que vous avez déjà eu dans l'émission.
Comment?
Non, on vous avait déjà eu dans l'émission.
Oui.
Tout à fait.
Je suis déjà passée plein de fois.
Exactement. Aïcha, vous avez connu la coloc, ça s'est bien passé?
Oui, alors moi, c'est de l'hébergement intergénérationnel.
D'accord.
Quand je suis arrivée à Orléans, dans le Loiret, donc, parce que j'avais encore mon logement de Poitiers par rapport à mon préavis, donc je pouvais pas payer Orléans et Poitiers.
Bien sûr.
Et c'est une annonce que j'ai trouvée chez un commerçant, et voilà. Alors j'ai appréhendé, parce que moi les personnes âgées, bah, c'est des personnes que je ne côtoie pas.
D'accord.
Parce que j'ai pas de grands-parents, j'ai pas de parents, donc voilà. Et en fait, je suis tombée sur une crème. Une D'accord. dame de 88 ans à l'époque, mm-hmm. et c'était une crème.
Mais c'est-à-dire, donc, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire que vous arrivez, vous avez une dame de 88 ans, j'imagine, Aïcha, qu'elle vous fixe des règles.
Alors moi, c'était donc logement gratuit. Mmh. En échange, il fallait que le soir, quand je revenais de mon taf, il fallait que je lui fasse chauffer son repas et D'accord. lui sortir son animal domestique.
De compagnie, ouais.
Et puis, voilà. Et elle m'a dit, sinon, elle me disait, tu fais comme chez toi. Non, moi, je pouvais pas, donc. Mais franchement, ça a été une superbe expérience. Et moi, j'envisage de refaire de la coloc, quand je vais déménager d'Orléans pour aller à Lyon.
D'accord. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez tellement aimé cette expérience?
Non, c'est surtout que, sur Lyon, j'aurais pas de logement. Et c'est très, très compliqué. C'est pas les mêmes tarifs que Orléans.
Ah oui, c'est sûr.
Mais ça sera avec ma collègue avec qui je pars en séjour adapté tous les étés.
D'accord, ok. Donc ça, c'est une colocation entre amis, finalement. En tout cas, ouais. Aïcha, vous faites partie des adeptes de la colocation.
C'est une bonne expérience, hein.
Mais les vieux sont gentils, vous savez. Vous aviez l'air d'avoir une image de Tati Daniel.
C'est pas cher, Aïcha, elle a eu un logement gratuit. C'est super bien, quoi.
Les vieux, c'est pas gentil, hein. Mais moi, c'est vrai que j'appréhendais beaucoup. Hein.
Bah oui.
Mais non, franchement, c'est une très bonne expérience. Et puis on apprend de chacun, en fait.
Et voilà. Exactement. Et puis voilà, il y a une espèce d'entraide intergénérationnelle. Merci beaucoup, Aïcha, en tout cas, de nous avoir appelé. Notre invitée sur ce débat, c'est Sophie Ting. Elle est porte-parole du groupe Colocataires. Bonjour, Sophie.
Bonjour.
Et
bonjour.
Sophie, on a l'impression que ça y est, la colocation est en plein boom en France, déjà pas pour des raisons économiques aussi, et puis on a tous connu la solitude, en tout cas beaucoup de jeunes ont connu la solitude pendant le Covid, et c'est aussi un bon moyen de rompre la solitude finalement, la colocation.
Complètement, en fait, en colocation, il s'agit avant tout d'une expérience humaine. Je l'ai entendu dans les différents échanges, il n'y a rien de plus complexe que l'être humain, ce qui explique que ce n'est pas binaire, il y a des avantages et des inconvénients à la colocation. Mmh. Ça demande beaucoup de savoir-vivre en communauté.
Et comment on fait justement quand on a un appartement pour bien choisir son colocataire? Est-ce qu'il y a un profil du colocataire idéal et surtout des colocataires éventuels dont il faut absolument se méfier?
Alors, en fait, on a différents types de profils de colocation. Donc, par exemple, on a le groupe d'amis qui se connaît très bien et qui décide de s'installer ensemble. Donc, c'est des personnes qui ont déjà voyagé ensemble en vacances. Voilà. Ensuite, on a effectivement, en deuxième groupe, des personnes qui ne se connaissent absolument pas. Donc là, c'est un peu Kinder Surprise.
Oui, c'est ça.
Mais tout comme on ne sait pas sur quel jouet on va tomber, on va dire que on ne sait pas sur quelle nouvelle rencontre on va faire. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse.
Il faut faire un entretien, comme un entretien d'embauche finalement, un entretien de colocation.
Alors oui, c'est vrai que parfois ils peuvent se rencontrer bien en amont. Apprendre un petit peu à se connaître, mais je peux vous partager ensuite le témoignage d'un colocataire, Pierre, qui préfère justement ne pas savoir sur qui il va tomber. Et c'est assez intéressant. Oui.
Alors après, en tout cas, pour les femmes, je pense que c'est un peu plus, c'est un peu plus délicat. Enfin, et je comprends Rémi qui dit qu'il y avait des locations entre femmes qui se multipliaient 20%. Parce que vous avez quand même envie de savoir à qui vous avez affaire. Enfin, moi, je me vois pas faire une colocation avec des gens que je connais pas du tout. Ça m'angoisse terriblement. Rémi, vous avez plein de messages sur l'appli RMC.
Oui, et ce message de Alex, pardon, qui nous dit la colocation m'a permis de commencer ma vie active sans me ruiner et j'en garde un super souvenir. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 31% ou une trentaine de pourcents en tout cas des colocataires actuels qui sont des jeunes actifs.
Les moyens de se loger autrement.
Exactement. Ce message de Kevin, je dois souvent passer derrière mon copain pour manger. C'est comme une coloc, donc non merci, pour ranger, pardon. Donc c'est comme une coloc, non merci. Moi, je n'aurais pas supporté de partager une location avec un inconnu.
Alors, on est avec Adrien qui nous appelle de Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, évidemment. Bonjour, Adrien.
Bonjour.
Adrien, vous êtes en coloc aujourd'hui?
Non, je ne suis plus en coloc.
Alors, mais vous l'avez été?
Oui, voilà, pendant un an avec une amie et en même temps chef à mon travail.
Ah, vous avez été en coloc avec votre chef, c'est très embêtant, non?
Non, du tout, c'était très plaisant.
Mais parce que, attendez, quand votre chef, par exemple, il range pas après avoir mangé ou il lave pas la salle de bain, c'est compliqué de lui dire, dis donc, c'est vraiment pas sympa ce que tu m'as laissé dans la cuisine ou dans la salle de bain. Enfin, je veux dire, vous pouvez pas lui faire de reproche que c'est votre chef.
Si, on s'entendait très bien en tant qu'amis, donc après, il n'y a pas de souci. Après, on était très, très organisés, donc il n'y avait pas de problème. Après, c'était aussi...
c'était pas le chef, quoi. À la maison, c'était pas le chef. Non, vous étiez à égalité.
Et ça veut dire que vous passiez 24 heures sur 24 avec votre chef, en fait.
Pratiquement, oui.
Mais si c'est un ami. Ouais.
Oui.
Et une fois rentré dans la location, vous parliez du boulot ou pas?
Un petit peu, mais on évitait. On en parlait une heure, une soirée deux, quoi. Mais et après, on faisait notre petite vie. Voilà.
Oui, mais vous dites que c'était bien, Adrien, mais n'empêche que vous ne vivez plus en coloc.
Bah, normal, j'ai trouvé le grand amour aujourd'hui.
Avec votre chef?
Non, mais ça a failli.
Ah, mais c'est ça, mais appelez-nous, tiens, si vous avez trouvé le grand amour en colocation. Parce que, bon, ça doit pas être si fréquent que ça, mais ça doit arriver. Merci beaucoup, Adrien, d'avoir été avec nous. Sophie Ting, est-ce que vous avez des histoires de colocation qui se terminent en mariage?
Alors, oui et non. On a pas mal de couples qui se sont formés dans nos colocations. Donc voilà, mariage après, ils sont assez jeunes.
Oui.
Mais oui, il y a des couples qui se sont formés chez nous.
Mais c'est horrible parce que imagine tu te mets en couple en colocation et puis derrière tu te disputes, ça doit être vachement sympa d'habiter dans la chambre à côté.
Après, ils s'en vont.
Oui, c'est ça. Bah, voilà,
avec après, c'est la fin de la colocation.
Bah oui, tu peux plus rester en coloc. Mais si t'aimes bien ta petite chambre, bah c'est quand même embêtant que tu sois obligé de partir parce que c'est une relation qui a mal, mal tourné.
Quitter sa petite chambre pour un nid d'amour, c'est quand même plus sympa, excusez-moi.
Oui, oui, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a des règles, un règlement intérieur à faire quand on est en colocation, Sophie Ting, voilà, une espèce de règlement intérieur comme dans les collèges et les lycées par exemple?
Complètement, c'est vraiment vivement conseillé parce que c'est assez important d'avoir une charte très claire sur les règles à respecter. Notamment sur des questions de sécurité, d'hygiène, de respect de l'intimité. Parce que, par exemple, on va dire que le ménage, c'est la source de conflit numéro un des colocations. C'est ce qu'on nous rapporte très souvent. Donc, voilà, qui fait plus que l'autre. Enfin, voilà, j'ai fait la vaisselle, t'as pas vidé certains filtres. C'est vrai que ça peut très rapidement générer des conflits entre colocataires. Et donc, il faut pouvoir établir ces règles.
Alors Fred parlait tout à l'heure du nom sur les aliments, c'est vrai que c'est l'image aussi qu'on a de la coloc. Qu'est-ce qui vaut mieux dans une coloc? Est-ce qu'il vaut mieux acheter la nourriture comme quand on part en vacances avec des amis? Vous savez, on achète de tout et puis à tour de rôle on fait la cuisine, ou alors chacun a son nom sur ses aliments, c'est quoi le mieux?
Alors nous on a deux types de profils, on a des personnes soit qui font des courses ensemble, et donc après ils se partagent... simplement le ticket. Et puis, on a d'autres personnes qui préfèrent se garder des compartiments par bac. Donc, voilà, le premier étage pour telle personne, le deuxième, etc. C'est hyper bien organisé. Donc, voilà, ça leur permet vraiment d'établir, encore une fois, des règles très claires et de pouvoir bien vivre en communauté.
Je vois, c'est marrant, Thierry, je vois faire la moue depuis tout à l'heure.
Non, mais
c'est assez rare. Vous qui êtes toujours content de tout d'habitude,
ça,
vous qui êtes toujours fan de tout, là, je vous sens extrêmement dubitatif quand même.
Oui, je trouve ça d'une tristesse d'avoir un compartiment avec des noms pour pas toucher au. Enfin, ouais. Je sais pas.
En même temps, quand on vient en Zézot, on vit pas en famille. C'est on sait pas pour organiser le foyer, faire à manger pour tout le monde. On a peut-être aussi envie d'avoir chacun un avis.
Oui,
en fait, c'est ça le truc qui est terrible, c'est qu'on fait des colocs par défaut parce qu'on n'a pas les moyens de se loger correctement. Et donc on se dit bon, écoute, tu voudrais pas vivre avec moi parce qu'en fait, je ne peux pas me payer, même si je suis un jeune actif aujourd'hui, un appartement à Paris ou même dans d'autres grandes villes en France. C'est ça le vrai problème, le cœur du sujet. Donc bon, chacun son petit compartiment, on se fait ses pâtes fraîches le soir, moi c'était ce que je faisais quand j'étais étudiant.
Vous partagez la cuisine avec votre
dame âgée? Non, parce que on partageait la cuisine, mais elle avait une dame qui venait leur préparer leur repas parce qu'ils étaient plus capables de le faire. Nous, on venait ensuite préparer notre popote, mais chacune notre tour. Et parfois avec
vous aviez votre compartiment alors?
Oui, c'est ça. Et parfois avec ma coloc Léa, on dînait ensemble, mais on ne s'imposait pas ça. C'est si jamais on était là au même moment tous les deux, bah c'est cool, on peut se voir cette semaine. Mais sinon, chacun fait sa vie.
Faisait ce qu'il voulait. On va terminer avec des messages, Rémi.
J'ai ce message de Julie qui nous dit: moi, la colocation, j'ai vécu ça.
à différentes reprises lorsque j'étais étudiante et jeune active. Parfois uniquement avec des filles, parfois avec des filles et des garçons. J'en garde un bon souvenir, même s'il faut, c'est sûr, beaucoup discuter et faire preuve de beaucoup de diplomatie pour que ça se passe correctement.
Merci en tout cas Sophie Teng d'avoir été notre invitée, on l'a bien compris, un règlement intérieur obligatoire lorsqu'on veut faire une colocation. Alors on vous a posé la question hein, sur le compte Twitter d'Estelle Midi sur la colocation, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis Rémi ?
Eh bien, la réponse, elle est là, c'est un enfer, c'est qu'on va pas grand monde. Hein. Pour 82% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux.
C'est l'aventure, enfin écoutez, c'est incroyable.
Je vous verrai bien. Bah, moi, je veux bien être en coloc avec ma chef, ça te dit, tu m'as.
Non, mais moi, j'ai pas du tout envie d'être en coloc avec toi. Quand j'étais étudiante, je regrette de ne pas avoir fait la colocation, de ne pas avoir vécu cette aventure.
Pas sûr.
Parce que c'est enrichissant.
J'aurais bien voulu voir Estelle Denis en coloc. Vécu,
c'est très enrichissant.
Mais parce que tu n'es pas tombé sur la bonne, comme à chaque fois, d'ailleurs, Fred. Mais un jour, tu verras, ça arrivera. Bah, tiens, puisqu'on parle de ça, dans un instant, RMC s'engage pour vous. Non, mais c'est horrible. On va tenter d'aider Marie. Marie, elle a été victime d'une arnaque à l'amour. C'est-à-dire qu'elle a cru au grand amour sur un site de rencontre. Malheureusement, elle s'est fait arnaquer de 20 000 euros. On va tenter de l'aider à récupérer cette somme, mais c'est vrai que ça va pas être facile. Allez, à tout de suite sur RMC. RMC s'engage pour vous.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure de vous aider dans Estelle Midi. Voici tout de suite RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, ensemble, on parle d'arnaque à l'amour. Bah oui, ça existe. Mm-hmm. Vous croyez rencontrer le grand amour sur un site de rencontre et en fait, eh ben non, c'est juste pour l'argent.
Ouais, c'est raté. Arnaque à l'amour, arnaque à la romance, appelez-le comme vous voulez. On parle ici d'escroqueries financières en ligne, des cybercriminels qui jouent les amoureux transis. Ils sont très forts pour le faire, pour vous soutirer in fine de l'argent. Ou parfois, ça arrive aussi des informations personnelles. Elle est à revendre par ailleurs. Ça aussi, ça arrive. Attention. 25% des Français, figurez-vous, inscrits sur une application de rencontre en ont déjà été victimes. C'est un sondage réalisé par l'entreprise Norton. 25% des Français inscrits sur une appli de rencontre. Donc comme quoi, ça concerne beaucoup plus de gens qu'on ne l'imagine. En tout cas, que moi, je ne l'imaginais. C'est ce qui est arrivé à notre auditrice qui a souhaité garder l'anonymat pour des raisons qu'on peut comprendre. Donc nous l'appellerons Marie. En février, son moral est au plus bas après un divorce, la mort de sa mère, puis la mort de son frère. Tout ça en moins de 2 ans. Elle cherche du réconfort et donc elle s'inscrit pour la première fois sur un site de rencontre en ligne. En l'occurrence, c'est adopteunmec.com. Très vite, un homme la contacte, il se fait appeler Fred. Après des heures et des heures de discussions passionnées au téléphone, c'est ce qu'elle nous dit, il prévoit de se rencontrer pour de vrai, donc assez vite en fait. Mais avant, Fred doit se rendre au Caire pour un voyage d'affaires. C'est là que le piège se referme sur Marie. Il l'appelle en larmes, il dit qu'il est bloqué sur place et qu'il a besoin de 28 000 euros.
28 000 euros ?
Ouais, écoutez.
C'est là qu'il me dit, est-ce que tu peux m'aider ? C'est la seule personne qui puisse m'aider. Bien entendu, au début, j'ai dit non, que je ne pourrais pas. Et en fait, après, avec son insistance, il y avait une emprise, en fait. Comme une hypnotisée, en fin de compte. Il me téléguidait. Et en fin de compte, je suis parti à la banque. Et c'est là que le calvaire a commencé, en fait.
Mais je n'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, Amélie, enfin, je veux dire, un billet Paris Le Caire, aller-retour, ça doit jamais être plus de 1 000 euros.
Alors, je peux
comment
vous donner
on fait pour donner, pardon, mais 19 000 euros à quelqu'un qui vous le réclame et qu'on n'a jamais vu.
Je peux pas vous donner tous les détails parce que vous l'avez entendu, la voix de Marie qui ne s'appelle d'ailleurs pas Marie, elle est modifiée pour préserver son anonymat. Il y a une plainte qui a été déposée, donc je peux pas vous donner les détails. Mais en l'occurrence, il a prétexté, c'était extrêmement bien ficelé, un voyage d'affaires, un patron d'une grande entreprise qui travaille dans un domaine très particulier, avec des autorisations en douane. Voilà. Je vous en dirai pas plus, d'accord. Mais c'est
simplement. C'est le bureau des
légendes, quoi. Voilà. C'est pas simplement un particulier qui allait faire un voyage au Caire. Non, c'est un voyage d'affaires très important. C'est comme ça qu'il a réussi, en fait, à la contrôler, quoi. Il l'a fait rêver, finalement. Ouais, et elle était très mal. Et en fait, sous emprise.
Moi, ça me fait pas rêver qu'on demande 19 000 euros.
Non, mais il a profité clairement de sa faiblesse et il lui a quand même donné quelques gages. Il promet de la rembourser. Il lui dit qu'il va lui signer une reconnaissance de dette officielle et il lui envoie une copie de son passeport.
Mais j'imagine, Amélie, que le passeport est un faux.
Bah oui, le passeport est un faux, sauf que ça, sur le coup, évidemment, bah, elle ne s'en rend pas compte. Hein. Marine l'apprendra qu'après avoir porté plainte à la gendarmerie, et encore parce qu'elle a été poussée par deux amis qui lui ont ouvert les yeux, parce qu'en fait, pendant des jours, elle a continué d'avoir envie d'y croire et de se dire qu'elle finira par le voir. Mais non, elle a bien été victime d'escroquerie. Écoutez.
Est-ce que la gendarmerie, tout ça, ils ont raison? Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que je fais partie de ces personnes que j'ai pourtant... des fois jugé, parce que, bien entendu, quand on voit ça à la télé, on est assez informé. Et je me suis dit, c'est pas possible que moi, je souhaite tomber dans un panneau comme ça, alors que j'ai jugé ces personnes-là, moi aussi.
Les gendarmes lui demandent de garder le contact avec ce Fred pendant deux semaines, donc de continuer à faire semblant, à entretenir cette relation amoureuse qui n'en est pas une, ce afin de le localiser, et les gendarmes, ils y arrivent hein, quand même. Son arnaqueur lui parlait depuis un cybercafé en Mauritanie. Ouais. Elle y a laissé presque toutes ses économies.
C'est terrible, Amélie, parce que j'imagine que comme elle a donné son argent, on lui a escroqué, mais genre elle l'a donné, elle pourra jamais le récupérer.
A priori, non, ça va être très très compliqué. Elle a évidemment alerté sa banque dès qu'elle est allée porter plainte, mais il était déjà trop tard, parce que vous l'avez dit, elle l'a donné cet argent. Elle a aussi fait appel à une association, donc si jamais vous nous écoutez et que ça vous est arrivé, vous pouvez vous rapprocher d'SOS Victimes. L'association lui a mis à disposition un psychologue, mais aussi une aide juridique, et donc désormais elle est accompagnée par une avocate. Elle a pu déposer une demande d'indemnisation qui a peu de chances d'aboutir, mais ça existe.
D'accord.
Auprès de la CIVI, qui s'appelle la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Encore une fois, il y a peu de chances, mais peut-être qu'elle va récupérer un petit peu. De notre côté, on a recontacté sa banque qui s'est engagée à la rappeler pour faire le point sur sa situation. Voilà, on n'a pas réussi à obtenir grand-chose, mais l'important pour Marie et sa démarche, si elle nous a contacté, qu'elle nous a écrit, c'était vraiment pour alerter, prendre la parole. C'était pas facile parce qu'elle a beaucoup de honte encore aujourd'hui, mais surtout s'exprimer et dire à toutes et à tous attention. Voilà, on peut juger, on peut regarder ça en se disant mais c'est pas possible de tomber dans un panneau pareil, mais en fait dans une situation d'extrême fragilité et c'est d'extrême faiblesse, et ben en fait on peut être tenté d'avoir envie d'y croire et de se retrouver dans ces situations là.
Oui, et ça n'arrive pas qu'à Marie, il faut le dire. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Amélie Rosic, c'est une personne sur quatre sur les réseaux sociaux qui a déjà été qui a déjà subi un abus de confiance.
Exactement.
On va dire, il faut se méfier de quoi, Amélie, justement quand on est sur un site de rencontre.
La première chose à faire, c'est depuis combien de temps le profil existe. Normalement, on arrive à le voir, ce profil. Est-ce qu'il existe sur ce réseau social, en l'occurrence cette appli de rencontre, depuis longtemps? Normalement, on peut voir quand est-ce que les gens se sont inscrits.
Ouais.
Ce qui peut être aussi.
Ça sert à quoi? On peut être un arnaqueur depuis 10 ans.
C'est assez rare d'utiliser le même réseau, parce que là, typiquement, ce Fred, qui ne s'appelle pas Fred, en réalité, j'imagine, ce profil, il n'existe plus. Donc, en fait, ils sont créés très ponctuellement. Oui. Donc, en général, les gens se justifient, par exemple, en disant, par exemple, Marie, elle venait de s'inscrire.
Ouais.
Donc, et elle voit que lui aussi venait de s'inscrire.
Ouais, donc, il vient de subir une rupture, je suis comme vous, etc.
Exactement. Donc, il faut se méfier un peu par rapport à ça. Il faut réussir à essayer de demander, il faut essayer de demander le prénom, le nom, voir si, par exemple, si vous êtes, je vous donne adopteunmec.com, essayez d'aller voir s'il a aussi un profil Facebook, tapez son nom. Faire 2-3 recherches sur internet, voilà. Et si ça vous met mal à l'aise, ne dites pas à la personne avec laquelle vous êtes en communication que vous êtes en train de vérifier si tout est safe. Mais faites-le quand même.
Si. Excusez-moi. Parce que si vous dites à la personne, excuse-moi, tu vois, je suis un peu parano, j'ai été échaudé par une histoire.
Oui, peut-être
avant,
qu'il arrêtera de parler et que c'est bon signe.
J'essaie de te googliser, mais c'est marrant parce que, franchement, aujourd'hui, vous trouvez rien sur Google, rien sur quelqu'un.
C'est mauvais.
Pas de réseaux sociaux, machin. Non mais après ça peut être quelqu'un de très discret.
Mais c'est très
ça
rare.
Arrive.
C'est
mais
très rare.
C'est vrai que c'est de plus en plus rare. Donc effectivement, après en même temps sur un site de rencontre c'est quand même compliqué de demander une pièce d'identité. Enfin tu vois c'est.
Exactement.
Exactement.
C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un peu des red flags, des petites alertes comme ça.
Et on parle aux amis parce que souvent les amis elles savent avant vous.
Exactement. Et là par exemple je vous l'ai dit Marie en fait elle a deux filles et elle n'en a pas parlé à ses filles. Bon bah voilà dans ces cas-là n'hésitez pas à en parler à vos amis même si vous avez un peu parce que vous êtes allé sur un réseau de rencontre franchement, il n'y a pas d'honte à avoir. Enfin, ils sont quand même très nombreux. Donc voilà, parlez-en autour de vous. A priori, s'il y a quelque chose de louche, si vous ne le voyez pas, vos proches ils vont le voir. Et écoutez-les.
Les 28 000 euros, je pense que tout le monde l'aurait vu.
Ouais.
Et donc, effectivement, la pauvre Marie, elle doit s'en mordre les doigts de ne pas avoir fait le coup de fil à un ami ou
exactement.
À ses filles. En tout cas, voilà, vous êtes prévenus. Méfiez-vous des applis de rencontre. Merci beaucoup. Amélie Rosic, on parle de quoi demain?
Les polluants éternels dans la vallée de la chimie.
Encore
à Lyon, vous vous souvenez?
Mais
il y a un énorme volet juridique qui s'est ouvert cette semaine. Johanna Chabaz vous dira tout demain.
Eh ben écoutez, formidable. Merci beaucoup Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous tous les jours 14h30 dans Estelle Midi. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui avec Rémi Barré.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h43 sur RMC, RMC Story, vous êtes dans Estelle Midi, c'est la dernière partie de l'émission et voici tout de suite les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, ce sont les immanquables.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Et on va les commenter, ces immanquables, avec Rémi Barret, Thierry Moreau, Azilise, Le Corps d'Urget et Fred Hermel. On démarre avec la hausse du jour, Rémi.
La hausse du jour, une soixantaine de médecins généralistes des Ardennes ont décidé de facturer leurs consultations 30 euros, une hausse de 5 euros par rapport aux tarifs qu'ils doivent normalement respecter. Cette somme est indispensable, selon eux, pour faire face à l'inflation.
30 euros, vous le comprenez, Azilise, Le Corps d'Urget, ou alors c'est trop cher?
Je pense que pour certains, c'est déjà trop cher. Malheureusement, beaucoup de gens renoncent à aller fréquemment chez les médecins.
Parce que la sécurité sociale,
oui,
ne paye pas.
Hein. Mais sauf que le fait d'avancer l'argent, pour certains, c'est déjà trop. Donc là, 5 euros dans un budget d'une personne provenant de la classe populaire, par exemple, ça peut être un trou énorme.
On sait que les consultations, il y a eu pas mal de réunions hein, entre les médecins et le gouvernement, est passé à 26,50 €. 30%, ça vous paraît être le bon tarif pour vous, Fred Hermel?
Non, mais moi je suis choqué. Enfin, c'est illégal de faire ça. Si ce sont des médecins conventionnés.
Ah, tu déconventionnes?
Ah, ben dans ce cas-là, ils se déconventionnent. Mais c'est pas à la carte. C'est pas un jour je suis conventionné, un jour je suis pas des. Non, quand tu es déconventionné, quand tu ne dépends. Voilà. C'est une profession libérale, tu appliques les tarifs que tu veux,
ouais.
Et puis le client, parce que c'est pas un patient, le client patient.
Et là, c'est pour alerter sur leur situation.
Moi je trouve pas.
C'est illégal. Ils seront plus à 30, mais à 50.
C'est illégal, voilà, c'est tout.
D'accord.
C'est illégal, ils n'ont pas le droit de faire ça.
D'accord.
Il y a des tarifs établis par la sécurité sociale,
oui, mais...
pour lesquels ils sont remboursés. Non, mais s'ils veulent faire les prix qu'ils veulent, ils se déconventionnent.
Et je pense que c'est
mais chacun va faire ce qu'il veut dans ce cas-là.
Mais non, mais c'est ce qui va se passer de fait. Je pense que comme ils ne respecteront plus le tarif de la Sécu, ils vont être déconventionnés. Il va y avoir une procédure, évidemment, parce que c'est pas eux qui vont intenter la procédure, je pense. Mais c'est aussi une manière d'alerter sur le fait que aujourd'hui, cette profession, enfin, excusez-moi, on est capable d'aller chez le garagiste et de se faire. Enfin, d'avoir des factures quelquefois qui sont hors du temps, j'ai un souvenir très précis en tête. Et puis à côté de ça, pour sa santé, on donnerait 25 euros seulement, 26,50 € pour quelqu'un qui a fait 10 ou 15 ans d'études et qui a ta vie entre ses mains. Moi, ce qui me choque, c'est le fait que le gouvernement n'ait pas assez augmenté le tarif de la consultation de base. Moi, c'est ça qui me choque. Donc après, les médecins, ils ont quoi?
On peut en discuter.
Alors les médecins, ils ont quoi comme... Alors qu'ont les médecins pour agir?
Mettre
un brassard et dire je suis en grève.
Il y a des négociations, je sens, qui ont été établies.
Les négociations, on leur a dit combien vous voulez. Ils ont dit 30.
Ils ne sont pas négociés, moi je ne peux rien.
Ils
ne
sont pas d'accord.
Ils ne sont pas d'accord entre eux déjà.
Mais alors après, mais au moins que le gouvernement leur donne quelque chose. Le paiement des rendez-vous non honorés, ce genre de choses.
Mais tu ne peux pas. Je suis le premier à dire. On a fait un débat ici.
Ils ne sont pas été augmentés depuis des années.
Il faut quand même rappeler que le salaire médian d'un médecin, c'est entre 6 000 et 10 000 euros.
Oui, enfin, excuse-moi, ils ont une toute petite responsabilité. Et puis en plus, ils ont fait 15 ans d'études. Donc, moi je veux bien. Mais moi, je sais pas, ça me choque pas qu'un médecin ait
mais ça c'est mérité, sauf que par contre la santé
par semaine
doit être un bien commun auquel chacun doit avoir accès. Ça par contre je pense que c'est non négociable.
Sauf que quand vous avez un patient qui ne vient pas par exemple des millions d'euros chaque année hein, les rendez-vous non honorés. Et donc à un moment quand vous avez un patient qui vient pas, donc vous perdez de l'argent, vous faites patienter une clientèle, je veux dire qu'il a enfin une patientèle,
mais on est tous d'accord, on a fait des débats là-dessus, on est tous d'accord. Moi je suis pour le paiement à 100% des gens qui préviennent pas. Voilà, c'est tout. Mais c'est normal. Enfin, tu réserves un
aussi.
Service.
Je suis d'accord.
Ne préviens pas. Le service, tu l'as consommé. Que tu l'aies consommé ou pas, tu dois payer. Et c'est pas le bien commun. C'est pas avec la Sécu ni avec la mutuelle.
Tu réserves dans un hôtel et tu viens pas,
ils prennent ta première nuit sur ta carte. Et ben voilà, ça devrait être comme ça. Donc, et c'est pourquoi l'idée, en fait, l'idée de la tout centraliser par exemple de la carte vitale sur la carte d'identité, etc. Avec les moyens modernes, on va pouvoir peut-être aussi que les gens se soient débités sur le compte des gens qui n'honorent pas les rendez-vous.
C'est pas pour demain, c'est la carte bleue.
C'est sûr. La surveillance du jour,
le Sénat a donné son feu vert hier à une disposition controversée du projet de loi justice. Elle prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des ordinateurs et autres appareils connectés, notamment des smartphones, à l'insu des personnes visées. Il y a deux objectifs, d'une part la géolocalisation en temps réel pour certaines infractions, d'autre part l'activation de micros et caméras pour capter sons et images qui seraient, elles, réservées aux affaires de terrorisme et de délinquance et criminalité organisée.
C'est plutôt une bonne chose pour vous, Thierry Moreau?
Ah oui, je pense que c'est une bonne chose quand on a affaire à de la criminalité à de la criminalité organisée, du terrorisme. Il faut se donner les moyens de se battre. Nous sommes une démocratie, mais malgré cela, la démocratie doit de temps en temps avoir des outils, peut-être entre guillemets liberticides, considérés par certains comme liberticides, pour pouvoir lutter contre un crime organisé qui, de toute façon, a toujours une avance, une longueur d'avance sur la police et les moyens techniques de la police. Donc oui, mille fois oui. Ceux qui n'ont rien à se reprocher n'auront aucun problème avec ça.
Oui, mais alors après, tu te dis, OK, aujourd'hui, c'est pour le terrorisme.
Et c'est puis, très demain, encadré. Oui. C'est très encadré.
Pour des petits délits, etc.
En France, on est le pays où on encadre le plus bien ce type de choses. Donc, je n'ai aucun souci là-dessus.
Alors, si je ne dis pas de bêtises, alors, par exemple, pour des écoutes classiques, il faut qu'un juge donne l'autorisation.
Absolument.
Ouais, oui, vous n'avez pas quelqu'un qui peut faire ça dans son
petit bureau. Mais non, mais je veux dire, c'est la police. Non, mais c'est-à-dire qu'un policier ne peut pas faire ça de lui-même.
De son, de sa propre initiative.
Donc, en fait, moi, je suis tout à fait d'accord. Enfin, nous sommes une grande démocratie où il y a plein de bornes pour éviter justement les abus. Donc, moi, je trouve ça tout à fait logique. Enfin, ça se fait pour. En fait, avant, il n'y avait que le téléphone qu'on pouvait mettre sur écoute. Aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui servent au crime organisé.
Mais bien sûr.
Donc, autant, ces objets qui servent à la fraude et au crime organisé, ils doivent être contrôlés comme le téléphone.
Oui, mais quand c'est effectivement. Là, ce que dit Rémi, c'est terrorisme. Bon, ça, évidemment. Ouais. Et après, c'est délinquance. Donc,
délinquance et crime organisé.
C'est pas juste voler une pomme, c'est les
réseaux de trafic de stupéfiants.
On peut pas s'offusquer des trafics et des machins en disant on ne peut pas lutter, on n'y arrive pas, on envoie la police, la CRS 8, etc.
Chose.
Oui, non, pardon.
Mais alors après, je m'attends déjà à des réactions genre c'est la Chine, on n'est plus en démocratie.
Oui, on est loin.
Il faut juste veiller aux limites, en effet, qu'on met à
10 corps d'urgence. La pâtisserie du jour. On a des nouvelles de ce que je vous racontais hier. Ryanair.
La compagnie aérienne Ryanair accepte de changer la donne et ne fera plus payer les pâtisseries à bord. Réaction à ce que nous vous racontions hier, l'aventure survenue à deux passagers de la compagnie aérienne qui étaient de retour de Majorque et qui s'étaient vus réclamer environ 45 euros chacun pour pouvoir emmener avec eux une pâtisserie traditionnelle des Baléares en forme de spirale. Le personnel avait estimé qu'il s'agissait d'un bagage supplémentaire au-delà du bagage à main autorisé.
Aziz, le corps d'urgé, là on en rigole évidemment de cette affaire, mais enfin, être obligé de changer des règlements, de légiférer sur tout et n'importe quoi, il y a un moment où ça devient pesant, quoi.
Non, mais c'est hyper grotesque. Mais surtout, en fait, ces compagnies d'aviation low cost, elles proposent des billets très peu chers, mais elles font de l'argent au moindre petit service rendu en plus. Donc c'est en fait ça qui pose problème. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces compagnies low cost? On sait en plus aujourd'hui, dans une période où on doit moins prendre l'avion, que cela pose problème parce que les gens vont préférer, par exemple.
Le kérosène est le même, non? Sur du low-cost que
oui,
sur
ça peut dissuader si les prix sont plus élevés. Donc ça pose aussi cette question. Alors par contre, là, évidemment, c'est assez ridicule, mais je pense que c'est anecdotique. Mais en revanche, profondément, il faut se poser la question de ces compagnies low-cost et de leur avenir.
Moi, ce qui m'agace, c'est les gens, vous savez, en fait, il y a marqué quand même sur les règlements, quand vous prenez l'avion, de un seul bagage à main. Ouais. Et parfois, vous voyez des gens, ils ont trois bagages à main, mais ça me rend hystérique. Ouais. Ils ont une petite valise à roulettes. Alors, toi, déjà, t'as du mal à mettre ton sac, parce que t'es gentil, t'as laissé passer tout le monde, t'as du mal à mettre ton sac au-dessus. Et oui, ils ont la valise à roulettes, le petit truc au-dessus, là, qui va sur la valise à roulettes. Et ensuite, à côté, ils ont un sac à dos et un sac à main. Et ça, personne ne leur dit rien, mais ça me rend dingue.
D'accord avec toi. Alors, déjà, 2x45 euros pour une pâtisserie, quand même, très étouffée. Chrétien, je la connais. C'est bien des Anglais pour bouffer ça. Et puis le truc, moi, c'est une compagnie que je n'ai jamais prise, je ne prendrai jamais.
Ah bon, pourquoi ?
Pour des raisons de respect du droit social, etc. Non, c'est parce que c'est une compagnie qui, on va pas dire que le droit du travail soit la principale préoccupation de cette compagnie. Donc oui, j'ai une certaine éthique pour ce genre de choses.
Très bien. Nous allons terminer avec la polémique du jour, Rémi.
Dieu n'échappe pas à la théorie du genre. La plateforme Sepharia, qui est une bibliothèque en ligne de textes religieux juifs, propose désormais, parmi d'autres, une version non genrée de la Bible.
Oui,
dans ce texte publié en anglais, le pronom masculin employé pour faire référence à Dieu est systématiquement remplacé par le nom propre Dieu. On peut ainsi lire dans le livre d'Isaïe « Cherchez Dieu tant que vous pouvez, invoquez Dieu tant qu'il est proche », alors que dans la version française, on a la traduction suivante « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez le tant qu'il est proche ».
Est-ce qu'il faut mettre l'écriture inclusive dans la Bible?
Alors déjà, il y a une chose, c'est que dans le judaïsme, on n'écrit pas le nom de Dieu. On écrit Dieu -IEU parce que on ne prononce pas. Enfin voilà, c'est une coutume.
Est-ce que Dieu a un genre?
Non, Dieu n'a pas de genre. D'accord. Non, Dieu n'a pas.
Donc on arrête de dire le Seigneur.
Non, mais c'est-à-dire que dans ce cas-là.
Non, parce que c'est ce qu'il faut.
Oui, mais dans ce cas-là. Mais c'est-à-dire que.
On ne dit pas un Dieu.
Non, mais c'est, là, dans ce cas, le mot il, enfin, le pronom il est employé, mais pas comme en tant que masculin.
Non, mais ce qu'on disait là, c'est qu'ils ont gommé le Seigneur et ils ne le remplacent pas. Dieu.
Moi, j'ai un peu regardé l'origine du truc et j'ai vu que l'école biblique et archéologique de Jérusalem s'est penchée sur le texte de départ. Et sur le texte de départ, il ne laisse aucun doute. Il utilise à plusieurs reprises le pronom masculin pour désigner Dieu. Donc, il n'y a pas de débat. Et vouloir faire ça. Vouloir faire ça.
Ça veut dire qu'il est masculin.
Vouloir faire ça pour plaire. Plaire à une mode actuelle me paraît être un truc complètement stupide.
Parce que au départ, c'est pas masculin. C'est un pronom masculin, mais ça ne signifie pas le masculin.
Et profondément, ça dévoile le sens de la Bible. Parce que dans la Bible, il y a une complémentarité des sexes. Et justement, l'homme et la femme sont des altères. Et cette complémentarité-là, pardon, est essentielle. Donc on ne peut pas la gommer, sinon on gomme le message. Ne serait-ce que de la Genèse.
Nous allons terminer par ça. Voilà, Dieu est-il une femme ? Ça aurait été la question.